Nous sommes tous des créateurs. À partir d'un rien, nous créons des choses incroyables plus que la vie. Nous sommes tous des inventeurs. Nous écrivons l'histoire à notre manière, parfois avec des stylos, parfois avec rien du tout. Avec des couleurs, nous nous amusons ensemble.
Nous sommes tous des inventeurs, des créateurs, mais faut-il le savoir, le rêver, le vouloir, en avoir l'occasion? Nous allons le croire aujourd'hui avec Sami Yassine, musicien, photographe et infirmier en art-thérapie. Bonjour.
Bonjour.
Cela consiste en quoi, l'art-thérapie?
C'est assez complexe parce qu'il peut y avoir beaucoup d'approches, mais en tout cas dans le cadre lequel j'exerce, donc c'est dans un hôpital psychiatrique à Clermont-Ferrand qui est Sainte-Marie, c'est un espace ouvert où la médiation par l'art, écriture, peinture, musique, est un moyen de rencontre avec les personnes qui y viennent. Et ça c'est hyper intéressant parce que les gens peuvent se raconter et l'art est un bon moyen pour pouvoir se raconter de manière indirecte.
Et c'est une activité tout à fait officielle. Hein.
Bien sûr, oui.
C'est-à-dire que l'hôpital intègre cette dimension artistique.
Complètement, c'est un service à proprement dit. Et donc, se passent en fait des rencontres entre soignants, patients, et se discutent beaucoup de choses.
Avec vous, Étienne Russias, bonjour.
Bonjour.
Fondateur, directeur de l'association Semer en territoire, association qui a été créée en 2020. Semer en territoire, tous les mots comptent.
Absolument. Notre but est d'organiser des aventures les plus larges possibles, les plus collectives possibles, les plus participatives possibles, dans lesquelles la pratique artistique partagée et les savoirs en partage trouvent une place. Nous faisons de cette pratique partagée des leviers de densification du tissu social en Livradois-Forez, c'est-à-dire dans le sud-est du Puy-de-Dôme, en Auvergne et ailleurs.
Donc c'est une association très locale ?
Pas seulement. C'est une association qui a deux niveaux d'action. Un premier, effectivement, à l'échelle locale, qui travaille avec l'ensemble des autres organisations de notre ruralité auvergnate, mais également à l'international. Nous avons eu l'occasion d'intervenir au Gabon, en Afrique centrale, plusieurs fois, à Paris, à Genève même récemment, et puis aux Comores aussi.
Aux Comores, où vous avez travaillé ensemble, donc Sami Yassine et vous, Étienne Russias, à la mise en place d'ateliers d'écriture. Pourquoi les Comores ?
Bien, c'est une histoire un petit peu longue. J'intervenais en fin d'année 2021 grâce à Samy qui m'avait gentiment invité au sein de l'hôpital psychiatrique Sainte-Marie à Clermont-Ferrand dans le département d'art-thérapie à conduire des ateliers d'écriture et à organiser des restitutions dans le cadre de festivals littéraires locaux. Et j'ai reçu une invitation de l'Alliance française de Moutsamoudou, donc sur l'île d'Anjouan, à venir animer des ateliers. Et pour le dire un peu vite, j'ai un peu fait ma diva. Et j'ai conditionné ma venue au fait de vérifier que ce que je faisais dans un département de psychiatrie pouvait être reproduit aux Comores. L'Alliance française a dit d'accord, ils ont cherché un dispositif d'encadrement, ils ont identifié la maison d'arrêt de Coqui, et il se trouve que l'ambassade de France aux Comores avait une attention particulière quant aux conditions de détention, ce qui a permis qu'une deuxième personne voyage avec moi, et l'évidence s'est imposée, ça devait être Samy.
Alors Samy, vous êtes photographe, en plus d'être musicien et infirmier en art-thérapie, ça ressemble à quoi la maison d'arrêt de Coqui ?
C'est un espace de béton où se mêlent des poules et des canards en plein milieu de la cour. Ce qu'il faut savoir, on rentre, c'est les cellules des gardiens qui sont proposées d'abord. Après, on descend et on arrive dans une cour où se trouvent trois cellules. Trois cellules, grosso modo, la première de 40 mètres, la mètre carré, la seconde similaire et la troisième, c'est 50 mètres carrés. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a à peu près une quarantaine de personnes dans chaque cellule. Donc, il n'y a pratiquement pas un mètre carré par personne. Ils doivent dormir à tour de rôle pour pouvoir se reposer, entre guillemets. Et voilà à quoi ressemble Coqui. Et avec une ambiance, effectivement, de tension, réellement, parce que les conditions de détention sont horribles, si on peut dire ça comme ça.
Et vous arrivez là en disant « je vais faire de l'art-thérapie ». Vous êtes reçu comment ?
L'idée, ce n'est pas tant de faire de l'art-thérapie, c'était plutôt de se dire, avec Étienne, on va créer des espaces de liberté et de création. Et comment modestement se trouver avec trois artistes locaux, un animateur culturel de l'Alliance française, tous les six. Comment créer un espace de création et de rencontre réelle? C'est pas tant de l'art-thérapie, mais c'est plus un travail de création écrite, et littéraire et musicale.
Et vous êtes resté combien de temps?
Nous sommes restés 2 semaines. Le groupe de 12 hommes que nous étions était composé donc d'artistes locaux et de 6 prisonniers. Et Samy ne dit pas qu'il a mené un gros travail de médiation avec un médecin sur place en amont afin d'identifier des prisonniers qui avaient envie de participer à cette expérience rythmique et poétique avec nous, qui avaient été un minimum francophone afin de pouvoir partager au moins, même si l'écriture en français n'était pas une contrainte, et enfin qui n'avaient pas de pathologie qui aurait empêché la participation régulière au groupe. Et nous avons eu 10 séances de 3 heures dans les murs qui nous ont amenés à une restitution le dernier jour, devant les murs de béton surplombés de grilles qui sont les cellules dont a parlé Samy, et avant de prendre un temps ensemble pour se dire au revoir, qui a été un moment très important de notre projet, de réfléchir à 12 sur la façon dont nous pouvions nous séparer et nous engager à faire quelque chose du commun que nous avions construit.
Et ce commun construit a donné lieu donc à un spectacle, à une performance qui s'appelle Nos grilles.
Avant de partir, nos grilles. J'avais dans la tête nos grilles. J'imaginais le bruit des grilles qu'on ouvre, bruit de barreaux sur un engrenage. Une Europe des cultures comme des visages en feu derrière une grille qu'on ferme. Des gencives grises, des sourires sales, Pierre de Volvic en cathédrale avant de partir, nos grilles. J'avais dans la tête des barreaux, barreaux aux fenêtres, barreaux aux portes, mains qui s'accrochent aux grilles qu'on ouvre. Des gencives grises, des sourires sales. J'avais dans la tête Pierre de Volvic en sourire sale, des gencives grises en cathédrale, avant de partir, nos grilles.
Texte Étienne Russias, musique Samy Yassine. Vous l'avez dans la tête, Samy Yassine, cette prison encore, vous aussi?
Complètement. Complètement. C'est des images qui étaient très marquantes, réellement, d'arriver dans un contexte qu'on peut qu'imaginer, anticiper, mais réellement, le vivre, c'est que des surprises, entre guillemets. C'est assez marquant, effectivement, comme image.
Alors, on vient d'entendre un extrait de votre performance, mais vous avez aussi enregistré les détenus. On les écoutera dans l'émission après avoir entendu Julie Lagarrigue, qui elle aussi anime des ateliers d'écriture de chansons, et puis des stages souffle et voix, et qui intervient régulièrement dans les maisons d'arrêt de la région bordelaise. Julie Lagarrigue qui sort un nouvel album, double album, Rendu les armes.
Je suis le garçon de la lune, à califourchon sur ma plume. J'allume mille et une lucioles, lance des paroles, paroles. Ni rançon, ni château, je suis un pirate en radeau. Main dans les poches, buste en avant, aux falaises j'accroche des bancs. Je vois le monde à la verticale, toute ma vie reste bancale. Aux falaises accroche des bancs, j'observe le soleil levant, un garçon de la rébellion, la cage qui contient le lion. Je ris de mes ratures. La vie, c'est l'aventure. Bomber le torse, filer devant. Aux falaises, j'accroche des bancs. Et je vois le monde à la verticale. Faut avouer, c'est pas banal. Ma main la dragonne, et puis qu'on me pardonne, poèmes en flèche aiguisée, si je ne sais pas désaimer. Je suis le garçon de cyanure, l'effronté qui grimpe les murs. Main dans les poches, à toute allure, au palais je rends mes armures. Je vois le monde à la verticale, toute ma vie reste bancale. Je suis ton poète maudit, depuis ma cage j'aboie ton nid. On peut m'écrire sans dire un mot, je suis l'oiseau dans le tableau.
Julie Lagarrigue sur RFI avec Le Garçon, un des titres de son nouvel album Rendu les armes. Étienne Russias, Samy Yassine, invité dans De Vive Voix pour raconter cette expérience d'atelier d'écriture aux Comores à Anjouan dans la maison d'arrêt de Coqui. Comment ça commence un atelier d'écriture dans un contexte comme celui-là? Est-ce qu'il y a un mode d'emploi, Étienne Russias?
Il y a des premiers exercices qui ne sont pas très originaux, c'est des cadavres exquis pour commencer, afin de faire émerger une première matière commune, une matière qui appartient à personne. On écrit une phrase, on fait passer à son voisin, des textes naissent qui n'ont pas vraiment de forme, qui sont signés par le groupe plus que par chacun. Et à partir de là, on va toujours proposer à chacun de se resservir de cette matière de base, atelier après atelier après atelier, pour la remixer, la mâcher encore et encore, apporter toujours les nouveautés, les singularités, mais toujours travailler sur cette matière qui est celle du groupe, afin de faire émerger une poétèque, une banque de poèmes qui sont du commun. Oui, une poétèque. Une banque de poèmes en commun. Des poèmes qui sont revendicables par tous, signables par personne, qui appartiennent au groupe en permanence, vraiment ce commun dont on parle. Et c'est comme ça que ça commence. Et à partir de là, eh ben, avec Samy, on va expérimenter autrement, mettre de la voix, du rythme, et ça part dans tous les sens.
Donc l'idée, c'est de les faire écrire, les prisonniers ou les malades. C'est pas de leur dire d'écrire bien.
Ah non, je sais pas ce que ça veut dire, écrire bien. Moi, je pense qu'on est tous et toutes poètes. Ça, j'en suis sûr. Tout le monde est capable de beauté, et c'est ça qu'on va vérifier. Par contre, écrire bien, bon ben, l'orthographe, c'est pas grave. La grammaire, c'est pas grave. La beauté, elle a pas besoin de la grammaire. C'est ça qu'on fait, c'est que déjà on fait ensemble, et déjà il se passe ce qu'on cherche. Quand on fait ensemble, c'est l'égalité. À un moment, il y a un des prisonniers qui écrit ça, on le dit dans le livre et dans la performance, il dit « L'art fait parfois l'égalité de la beauté et de la bonté ». C'est ça qu'on cherche, c'est de montrer qu'on est tous capables de beauté, en tout cas de le vérifier à chaque fois.
Et dans vos ateliers, il y avait Ibrahim.
Je ne sais pas écrire, mais j'écris. Je ne sais pas par où commencer, j'écris quand même. Quelques phrases sans rien dire, j'écris. Tout ce que je vois, j'écris. Des bouts de papier sur terre, j'écris. Peut-être ce sont des poèmes perdus, mais j'écris. Des feutres, des mots, des visages blancs, noirs, bleus, j'écris. J'écris la couleur verte de la nature, j'écris. La mer, j'écris le pervers et non impervers. J'écris des paroles à la Prévert, des images qui me passent par la tête, je les écris. Des boutres, des voyageurs, j'écris. J'écris ce que les autres pensaient écrire.
C'est touchant ce que dit Ibrahim. C'était la première fois vraiment qu'il écrivait. Il avait lu Prévert, en tout cas, avant.
Alors, le Prévert, on l'a lu ensemble. Ça faisait partie des éléments de base. Quand on commence la première fois, on se donne déjà une matière existante. Alors, on est arrivé à Coqui avec des textes de René Char, de Prévert, de Verlaine, de Rimbaud, d'autres aussi, des textes écrits par d'autres poètes amateurs du Livre à Doigts Forez, donc de chez moi. On avait cette base, et puis on l'a malaxé. Ibrahim, il fait partie d'un collectif de slammeurs qui s'appelle Poésie. Il fait partie des trois artistes comoriens qui ont participé à ce projet. Et il est encore très actif. C'est un formidable poète en langue chinzwani. Et enfin voilà, il a plutôt l'habitude d'écrire, Ibrahim.
Oui, ça s'entend quand même. Samy Yassine, est-ce que vous avez senti la liberté des mots peu à peu se manifester?
Ça s'est fait au fur et à mesure, effectivement. Quand le lien commence à se tisser réellement, quand on commence à faire commun, vraiment, et montrer qu'on est là pour se soutenir par des exercices d'écriture, par des exercices aussi de communication par le biais de la musique, est un bon moyen pour apprendre à se connaître. Et à ce moment-là, effectivement, il y a la liberté d'écriture qui s'installe et on balance, ça balance très fort, réellement.
Mais c'est quoi la liberté derrière les grilles?
Eh ben, c'est derrière la pensée qu'on ose poser sur papier, la pensée qu'on ose partager entre nous, qu'on n'ose pas nécessairement partager avec d'autres personnes dans les cellules, peut-être, avec les gardiens. Probablement, Et là, à ce moment-là, en fait, il y a des choses réelles, fortes qui se disent.
Parce que ce sont des bénévoles, ce sont tous des bénévoles qui viennent assister à ces ateliers. On ne les force pas à assister à un atelier d'écriture.
Non, il y avait eu tout le travail de médiation qui avait été mené afin de dire que c'était sur volontariat, il fallait vouloir participer. La liberté, c'est que quand on est en train d'écrire avec un stylo sur une feuille, tout le reste n'existe pas. Ce qui existe, c'est le contact de la pointe avec la feuille et l'encre qui trace des lettres, et puis des mots, puis des phrases, puis des vers, et qui trace un texte. À ce moment-là, il y a de la liberté. Et en fait, on a vu ça apparaître. On a vu comment, au début, on est arrivé avec effectivement ce premier temps, avant que le lien se fasse, des gens qui se ressentent, qui se regardent, l'air un peu perdu. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure des jours, des gens qui viennent avec des poèmes le matin, parce qu'ils l'avaient écrit dans les nuits des cellules. Nous, on a vu ça. On a vu comment il y avait des actes nouveaux qui sont apparus dans la maison d'arrêt de Coqui par la poésie.
Un atelier d'écriture et la parole recueillie précieusement comme un cadeau.
Oui, mon frère, j'ai lu dans un vieux livre que l'esprit dépasse la matière. Et qu'est-ce que cette absurdité ? Un télépathe peut-il bouger une montagne ? Est-ce que les éléphants portent des lunettes de soleil ? Est-ce que je mange du piment ? Est-ce que Paris aime Marseille ? Le pire, c'est qu'ils reprennent à la télé. L'esprit domine ! Les hommes d'esprit ! Les grands esprits ! Moi, je dis que les plus grandes lumières ne font pas briller les ampoules comme l'électricité. Dans ce silence lourd et violent, terrifiant qui s'écrase sur moi, j'ouvre la porte des terreurs qui vont m'accompagner pour plusieurs heures. I don't have a drum, I have a dream. Laissez-moi donc rêver.
Comme un enfant, comme une étoile, comme un fou, comme un poète. Comme un enfant, comme une étoile, comme un fou, comme un poète. Comme un enfant, comme une étoile, comme un fou, comme un poète.
I have a dream, c'est le mot de Martin Luther King. Et celui qu'on vient d'entendre, Étienne Russias, c'est Slafouette, qui est lui aussi un poète comorien.
Absolument. Slafouette, qui est un formidable poète et qui, après ses ateliers, a commencé à développer, en suivant le même procédé que nous, des ateliers dans les écoles primaires de Lille. Donc, on est ravis, puisque c'est aussi une des retombées de ce projet.
Mais est-ce que les prisonniers... Pardon.
Et l'Alliance française aussi.
Est-ce que les prisonniers avaient la même aisance face à l'écriture et face à la parole ?
Ça dépend lesquels. L'un des prisonniers, Petit Boss, avait été rappeur à Mayotte. Alors, effectivement, tout de suite, il nous a produit des textes très longs et avec la facilité de le dire. Et puis, pour d'autres, effectivement, le simple fait d'écrire était déjà un aboutissement en soi. Mais ce qui était aussi le cas de Gololo Shams, l'enchanteur, qui est chanteur, qui est finaliste de The Voice Comore, qui a participé en tant qu'artiste à ce projet-là, et pour qui écrire des poèmes, c'était pas évident non plus. La même chose que Irfan, animateur à l'Alliance française de Mutsamoudou, qui est venu avec nous, et pour qui non plus, c'était pas évident au début d'écrire. Et en fait, c'est pas propre au statut de prisonnier ou pas, c'est propre simplement à l'habitude d'écrire.
Mais ça change quoi pour eux ? Est-ce que vous savez ce que ça a changé ? Parce qu'ils restent derrière les barreaux ou les grilles, ils restent à 40 dans leur cellule.
Ça a été une des questions les plus importantes qu'on s'est posées. Comment on se dit au revoir quand nous sortons de la cellule et qu'eux y restent ? Il a fallu que le groupe des 12 que nous étions trouve sa réponse pour maintenir cette égalité au-delà de cette différence. Et pour ce que ça a changé, il y a eu deux choses. C'est que chacun a trouvé l'engagement, a pris l'engagement devant le groupe d'en faire quelque chose. Benjamin a dit « Je vous enverrai une photo de moi avec une guitare sur une plage ». On a reçu cette photo. Oussam nous a dit « Je vous inviterai à une soirée avec ma femme et ma fille quand je sortirai. » On a l'invitation. Et puis, les 6 prisonniers ont été libérés pour bonne conduite dans l'année qui a suivi. Je ne sais pas si les ateliers sont la raison de ça. Je veux croire qu'ils ont participé de cette décision.
En tout cas, la parole, ça libère. La poésie, ça libère, si je vous prends à la lettre. Ils restent prisonniers, mais ils sont sortis. Vous avez la même émotion en les évoquant, Samir Yassine ?
Totalement. Il y a quelque chose de très fort qui s'est passé entre nous. Un lien, encore une fois, qui pour moi était qui inoubliable, réellement. Et de voir en fait comment les personnes se sont saisies de ça pour créer sa propre liberté dans des espaces qui étaient largement difficiles.
Et vous évoquiez Gololo. Le voilà.
Je crois en moi, je crois en vous, tout simplement, je crois en nous. Je crois en ce qu'on fait, je crois que demain, on sera bien. J'ai appris de vous et vous de moi, je vis la joie et tout le monde le voit. Parler m'a permis d'y croire, ça m'a empli de bonheur, qui brûle comme le feu grégeois. Oublier cet instant me sera impossible, car sans vous, je serais resté sans voix. Aujourd'hui, je vois, tout comme je crois, que notre rencontre en fera des exploits.
Adalaï chouchou, Adalaï chouchou, Adalaï chouchou, Adalaï chouchou, Wanyawe wanyawe o, Ragule o bani o, Wanyawe wanyawe o, Ragule o bani o.
Ça veut dire quoi, Dalaï Chouchou, Étienne Russias ou Samir Yassine?
En fait, c'était une petite dédicace pour moi, parce qu'en fait, ça parle de chouchou. Et comme
et c'est vous, chouchou?
Eh ouais, c'est moi le chouchou, j'en ai dans les cheveux.
Avec un petit chignon et un chouchou.
C'est une chanson populaire aux Comores.
Ce qui est touchant, c'est qu'ils ont appris de vous, vous avez appris d'eux.
Ben oui, bien sûr.
Est-ce que c'est une expérience exportable? Ou est-ce que c'était vraiment cette situation-là, dans ce temps donné aux Comores, qui a permis l'émergence de ce projet et cette rencontre?
Les deux. La structure que je porte en Livre d'Aphorez, elle a pour but de faire écrire des poèmes à plein de groupes de publics différents, un internat de collège, des collégiens, des étudiants, des personnes âgées, des parents avec leurs enfants. Et c'est toujours la même chose. On vérifie toujours que les gens sont capables de beauté et ça crée toujours ce commun, ça crée toujours ce passé. On vérifie à chaque fois que l'art, c'est un levier concret de changement du réel. Donc ça, c'est exportable. On peut le faire partout, j'en suis certain. Par contre, ce qui est unique, c'est que si on change un seul des membres de ce groupe-là, c'est plus du tout les mêmes textes qui naissent. C'est plus du tout les mêmes thématiques. Ce qui est unique aussi, c'est le moment que nous vivons tous les quatre autour de cette table avec Laura à la réalisation et qui fait que si on change un de ces cinq doigts de la main, eh ben, ça marche plus, c'est autrement, c'est autre chose. Et donc, oui, l'expérience, elle est exportable et non, elle ne l'est pas.
Vous ne désespérez jamais de l'humanité?
Je sais qu'elle est capable
de
entendre.
Beauté. Étienne Russias, vous l'avez presque nommé, on va changer de genre, et je ne dis pas ça parce que ça manque de filles aujourd'hui, mais parce que Lucie Bouteloup vient de faire son entrée dans le studio pour sa chronique La Puce.
La Puce à l'oreille.
Bonjour Lucie.
Bonjour Pascal.
Vous faites une chronique chic aujourd'hui.
Alors là tout de suite quand je parle chiffon ça vous plaît. Hein. Alors aujourd'hui...
Un stéréotype encore.
Aujourd'hui avec Daniel Lacotte, on vous taille un costard.
À
mais
moi.
Je ne suis pas sûre que vous y trouviez votre compte parce que l'expression du jour n'a rien à voir avec les dernières tendances mode. Mais je n'en dis pas plus. Taille un costard, donc on écoute tout de suite les propositions.
Des enfants.
Moi, tailler un costard à quelqu'un, ça veut dire lui donner une bonne image, enfin bien parler de quelqu'un et peut-être des fois trop. Parce qu'un costard, c'est quelque chose de classe, donc c'est comme si tu fabriquais son costume pour qu'il paraisse plus classe. Donc c'est parler de quelqu'un en bien et le valoriser.
Tailler un costard à quelqu'un, moi ça veut me dire lui passer tout son avenir, lui donner un boulot, c'est aider une personne à faire son métier. Ça viendrait, vu que le costard c'est un peu chic, bah, à mon avis, quand ils nous donnent un métier, bah, c'est trop cool d'avoir un métier, donc ça viendrait de là.
Pour moi, tailler un costard à quelqu'un, ça veut dire, comme le costard c'est quelque chose qui te forme un peu et c'est surtout chic, je pense que ça veut dire tailler quelqu'un un peu comme on veut, lui tailler un peu la tenue chic. Du coup, comme c'est cher, les costards, bah, c'est quelque chose de chic, tout ça.
La puce à l'oreille.
Bonjour Daniel Lacotte. Alors une réaction,
bonjour,
proposition des enfants pour cette expression tailler un costard.
Ouais, mais ça paraît simple, mais ça l'était pas hein, pour ces enfants effectivement là.
Ils savent tous ce que c'est que le costard. Donc le costard,
ouais,
c'est la veste de costume. Hein.
C'est la veste de costume. Oui, mais c'est même le costume dans son ensemble, pantalon et veste. Hein. Donc tailler un costard, ça veut dire dire du mal de quelqu'un pour faire
le
ça.
Le critiquer.
Le critiquer, dire du mal de quelqu'un, etc.
Lui faire une mauvaise réputation.
Lui faire une mauvaise réputation. Alors mauvaise réputation, qui peut bien avoir une mauvaise réputation encore aujourd'hui, je dirais malheureusement, bon, c'est la police, quoi, hein, c'est les flics, quoi. Et donc, le costard, c'était pour parler des policiers, tout simplement. Hein. C'était un mot qui permettait, dans les banlieues de l'époque et autres, hein, mais c'était pour parler entre eux, de la police, quoi. Ils disaient, ah, voilà les costards qui arrivent.
Les costards, donc, en référence au costume des policiers, mais donc au costume civil.
Civil, voilà. Parce que, alors, il y avait ce qu'on appelle encore aujourd'hui les bleus. Hein. Alors, les bleus, c'est les policiers.
Hein. C'est les policiers, mais cette fois-ci, qui sont en uniforme.
Qui sont en uniforme bleu,
donc. Donc, comment on passe du costume civil du policier à la réputation ? Et pourquoi on lui taille un costard ?
Alors, on taille un costard parce que, évidemment, le policier est mal vu. Donc, tailler, c'est tout simple. Hein. C'est une métaphore encore du verbe tailler. Donc, ça veut dire qu'on s'attaque au policier, qu'on s'attaque au costard. Voilà, tout simplement. C'est ça, tailler un costard.
Donc, ça n'a rien à voir avec le fait de tailler l'étoffe.
Ah non, pas du tout. C'est vraiment le fait de s'attaquer à... C'est...
D'ailleurs, cette expression, elle existe encore. Il s'est fait tailler, l'ai taillé pour dire que j'ai dit du mal de lui. Quoi.
Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. C'était aussi se tailler un costard, se mettre en valeur, quoi, pour dire « je me suis taillé un costard ». Hein, c'est encore plus fort, quoi. Se tailler un costard, ça voulait dire se faire un flic. Et puis c'est devenu tailler un costard.
Se faire un flic, c'est-à-dire aller se battre avec un policier.
Oui, même le tuer, hein, c'était se faire un... Oui.
Alors ce qui est intéressant, donc, le verbe tailler, comme vous le disiez, n'a rien à voir avec le tailleur qui coupe l'étoffe. En revanche, quand on taille un costard à quelqu'un, on le rhabille pour l'hiver.
Ah oui, bah oui.
Donc, rhabiller quelqu'un pour l'hiver, ça veut dire que on l'accable encore, le pauvre, des pires défauts, quoi. Hein.
Ouais, on dit ça d'un copain, on discute comme ça, puis on dit des bêtises et tout, hop, il est rhabillé pour l'hiver. Bon, ça veut dire, bon, là, il n'y a plus rien à dire, quoi, hein, c'est tout.
Ce qui n'a rien à voir avec « va te faire rhabiller chez tout nu ».
Oh, bon, non.
Va te faire habiller chez tout nu, ce qui veut dire va te faire voir.
Va te faire voir. Ça ne m'étonne pas que vous ayez trouvé cette expression.
Alors, on rhabille les gens pour l'hiver, on leur taille un costard, on leur casse du sucre sur le dos, en fait. Hein.
Oui, aussi. Sachant que le sucre était quand même une denrée. Là, on parle toujours des 18, 19e siècle, 18, 17 même. Et le sucre était une denrée rare et surtout, donc, très chère. Mm-hmm. Donc, quand on cassait du sucre sur le dos de quelqu'un, ça voulait dire quoi, Lucie ? Ça voulait dire que le mec, il avait du sucre, justement, sur le dos. Donc, problème de classe. On casse du sucre sur le dos de quelqu'un qui est riche. On peut l'accabler autant qu'on veut, il est riche. C'est ça ?
Merci, Daniel Lacote, d'être venu éclairer notre lanterne. Cette expression, ainsi que plein d'autres, sont à retrouver dans votre ouvrage « Les expressions les plus truculentes de la langue française » aux éditions Larousse. Merci, Daniel, et à très bientôt.
Merci, Lucie.
Merci à tous les deux. J'imagine, Étienne Russia, Samy Yacine, que l'expression « tailler un costard » est une expression un peu obscure pour vos interlocuteurs comoriens. Mais à l'inverse, y a-t-il une expression ou une formule qui vous a surpris, enthousiasmé, enchanté dans ce séjour aux Comores, Samy Yacine ?
Eh bien, il y avait une formule qui a été proposée tout de suite, c'était caribou. Caribou, en langue chinoise, ça veut dire bienvenue. Alors nous, effectivement, on pense à l'animal canadien, mais non, ça veut dire bienvenue. Et ce qui était intéressant, c'est que ce mot-là, on l'a utilisé pour nous nommer l'équipe Caribou Vanille. Vanille, parce qu'on avait une petite gousse d'ail sur le t-shirt qui a été donné par l'Alliance française, qui n'était pas très beau, soit dit en passant, mais voilà, donc ça a fait notre identité.
Donc caribou, bonjour, pour se dire
bienvenue,
au revoir.
Ouais.
Ça, au revoir, je pense.
Je crois qu'on ne l'a pas gardé parce qu'on est encore en contact avec eux. Donc...
Vous leur demanderez. Merci beaucoup, Étienne Russia, Samy Yacine. Nogri, donc la performance issue de ces ateliers d'écriture est en tournée actuellement dans les médiathèques françaises et ce samedi à la Fondation Good Planet à Paris. Et puis, il y a la version livre aux éditions de Lire de l'Ours, qui est une petite maison d'édition, d'Auvergne. Et vous dites que c'est de la poésie collective, en fait.
Hein. Oui, c'est ce qu'on cherche à faire émerger. C'est vraiment des banques de poèmes signables par tous.
Devez-vous à Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo, Laura Pinto à la réalisation. À demain.